Jean de la Brette. Les deux sommets. Chapitre 1. 15 juin 1914. Ô destinée, que vos jeux sont bizarres! Quel personnage adressait cette apostrophe à la destinée? Était-il révolté ou ironique? Je souhaiterais qu'il fût ironique, car j'ai compassion de ceux qui ne se soumettent pas tranquillement à la vie. Lutter pour obtenir l'insaisissable, à quoi bon? Ces trois mots renferment toute ma paisible philosophie. Vienne Noël prochain, il y aura 32 ans que je suis né, c'est dire que notre amitié, à ma philosophie et à moi, est déjà vieille. De notre première rencontre, je ne dirai rien, si ce n'est que nous nous sommes tendus la main devant mon miroir qui me révélait, en n'en pouvoir douter, ma grande insignifiance. Depuis ce jour mémorable, à part quelques brouilles, nous avons vécu en parfaite union. Mes parents, que mon visage contrarié, m'ont mise très jeune en garde contre de folles espoirs. En même temps, leur sagesse vantait les petits bonheurs d'une vie indépendante et les qualités morales que chacun peut acquérir. Le terrain pour cette semaille était fertile. Le savaient-ils ou ont-ils jeté le grain au hasard? Je l'ignore. Je sais seulement que, ne me cramponnant pas à l'impossible, j'ai chassé, comme gens importuns, les regrets inutiles. Et lorsque des hommes, un peu vieux ou un peu pauvres, ont demandé ma main, j'ai refusé sans hésiter. Serais-je donc romanesque? Je ne le crois pas. Le cœur a de grandes affaires quand il ne s'occupe plus de lui-même, et j'espère que le mien n'a pas perdu son temps. Ainsi, on s'est habitué à me considérer comme une de ces théories courantes que chacun accommode à son esprit. On la rétrécit, on l'étend, on la tourne et retourne d'après les besoins du moment, et sa souplesse fait oublier son principe initial, dans l'espèce sa vie propre. Cet être impersonnel a pris les vêtements sans éclat de Cendrillon, mais une Cendrillon moderne que nul habit éblouissant ne saurait transformer. Il est destiné à demeurer sous l'âtre, j'entends au moral, et agit sans bruit sous son habit cendré. Un jour que, sans l'appliquer à moi-même, j'ébauchais cette idée devant Christian, il s'est écrié « C'est vrai, il y a de ces êtres-là. Mais après tout, c'est toi, Marguerite, tout à fait toi. Désormais, je t'appellerai Dame Cendrillon. » « Tu ne me flattes pas, » dis-je en riant. « Comment je ne te flatte pas? Ne sais-tu pas que les choses les plus modestes sont les soutiens de la société? Prends le fameux bas de laine, par exemple. Au moral, c'est identique. » C'était donner au bas de laine un air qui n'est point à dédaigner, et selon les aperçus de Christian, la force cachée de cette épargne devenait mystique sous sa simplicité. Je lui livrai cette remarque. « Pourquoi pas ? » a-t-il répondu avec le plus grand sérieux. Je me mis à rire, peut-être pour cacher mon émotion. « C'est un cœur d'orque, mon frère, un cœur qui saisit les moindres nuances, et je devinais quel sentiment délicat inspirait ses réponses. Avec quelle légèreté de doigté, il met la main sur des plaies imperceptibles. » Quoi qu'il en soit de nos idées alambiquées, le nom de Cendrillon m'est resté. On me l'a appliqué avec tant de gaieté et d'amabilité qu'il m'est devenu cher. N'est-ce pas curieux que moi, qui n'ai rien de remarquable, je trouve si facilement près des miens l'affection confiante que chacun désire, affection d'une rare douceur et que des esprits supérieurs ne connaissent jamais. Combien atteignent des rives lointaines sans avoir, dans leur course rapide ou agitée, goûter au meilleur suc. Je pensais à tout cela tantôt en regardant une touffe de grandes marguerites. Fleurs vulgaires, non par elles-mêmes, mais parce qu'elles sont répandues partout et qu'on passe indifférent près d'elles. Fleurs sans parfum qui s'épanouissent dans tous les sols car il leur faut un rien pour vivre. Riant du rapprochement qui s'imposait à mon esprit, je leur disais « Vous, les poètes, vous en chantez, vous chanterons encore. » Mais moi, ma tête s'inclinera, fanée pour toujours, sans que la poésie se mêle de mes affaires. » Après ce beau discours, je me suis remise en marche et j'ai rencontré Christian qui m'avait aperçu de loin. « À qui en as-tu, Marguerite? Tu as l'air bien gaie. » « Je causais avec mes homonymes. » « Et que leur disais-tu? Ah, c'est mon secret !» Christian a passé son bras sous le mien. « Ton secret ? Je crois à beaucoup de secrets, Ou plutôt, beaucoup de pensées derrière ce front tranquille. Tu devrais écrire ta vie. » Cette idée, comme un éclair, fit passer devant moi mon enfance paisible, ma jeunesse sans secousse et mes sentiments toujours en mouvement. « Ma vie, répétai-je, elle a été, elle est et sera si simple. Qu'en dirai-je ? Je ne parle pas des événements, mais de ta vie intime, personnelle. N'est-il pas singulier, dame Cendrillon, que nous sachions si bien nous raconter à toi, sans que jamais tu te sois raconté à nous ? » Intérieurement, je répondais, « Si vous vous racontez si bien, c'est peut-être grâce à mon silence sur moi-même. » « Tu ne réponds pas, Marguerite ?» Le nom que tu m'as donné répond pour moi. Mes pensées sans couleur sont celles d'une Cendrillon. Allons donc, les actes et l'attitude parlent. Il me secouait affectueusement pour mieux accentuer son dire. Cher Christian, il sait être encourageant, aimable. Quand il commençait à parler et que je le prenais sur mes genoux, il avait déjà des mots qui dénotaient son excellente nature. Mon esprit t'inspire trop de confiance. Répliquai-je en riant. Basse, je sais ce que je dis, j'ai même la prétention d'être seule à te pénétrer. Tu t'en vantes pour la première fois, dis-je gaiement. Je vieillis et je réfléchis. Je comprends et vois, alors que jadis, je me bornais à sentir. Qu'as-tu à dire ? Rien tout d'abord, car sa réponse m'étonnait. Elle était profonde, sans qu'il s'en doutât, et me rappelait un mot extraordinairement vivant de Paul Bourget dans L'Étape. Je dis qu'à 20 ans, on a parfois des réflexions plus profondes que son âge, Christian. J'ai détourné la conversation en parlant du mariage d'Olga, mais l'idée était lancée et je l'exécute à l'insu de mon frère. Elle dissipera un vague malaise que j'appelle un peu d'ennui. Christian a mis l'outil dans ma main et dès ce soir, je le manie. Plus tard, comme dans les romans, une nouvelle génération découvrira ma grosse écriture et ses souvenirs sur des riens, sur les événements habituels de la vie, l'intéresseront parce que rien n'est insignifiant dans les reflets du passé. Ce jugement est probablement puisé dans mes goûts personnels. Je ne vois pas un vestige ancien sans tomber dans la rêverie. On m'en plaisante et j'en ris moi-même sans perdre aucune occasion de recommencer. Avec cela, j'aime notre industrie, nos machines, nos ouvriers. Quand j'étais enfant, mon père m'expliquait, du moins essayait de m'expliquer, comment s'accomplit la transformation du sucre. Il me semblait féerique qu'une chose si bonne sortît d'une betterave si laide. Plus tard, quand je compris l'art du raffinage, il s'est mêlé à mon intérêt je ne sais quelle assimilation poétique avec mes pensées enfantines sur les métamorphoses voulues par d'excellents génies. Ils sont admirables, ces génies de la nature et de la science. Je me suis passionné pour notre industrie, j'en ai appris l'antique histoire, j'ai suivi les progrès par mes lectures et par les faits directs. Notre village de 50 feux, nos nombreux ouvriers logés en dehors du village, sont un aliment continuel à l'activité morale et matérielle. Et je ne connais pas d'existence plus remplie que celle d'un grand industriel qui comprend complètement son œuvre. Mais je trouve délicieux d'échapper à cette activité pour gravir au fond du parc un sentier encaissé entre des talus ombreux. Il monte aux ruines de l'ancien manoir. Des pariétaires cachent les pans de murs, le lierre tombe en liane autour d'ouvertures qui ont été des portes, et de grands ormeaux ont prospéré dans l'ancienne cour. Il faut se glisser sous les branches pour parvenir aux restes mutilés du manoir. Petit et modeste, il fut abandonné à la nature par mes grands-parents qui construisirent plus bas, c'est-à-dire à mi-côte, la vaste maison que nous habitons. Elle n'a aucun caractère, mais je n'en veux rien critiquer, car elle est confortable à souhait. Surtout, ma vie a passé et passera tranquille dans ces murs. Une grande plateforme, toujours fleurie, s'étend devant la façade et de larges allées, contournant des pelouses, aboutissent à la route qui mène au village et au bourg. Mais, aux allées sablées bien entretenues, je préfère les trois sentiers qui suivent un ruisseau et se perdent sous les arbres. Ce n'est point un Le Nôtre qui a dessiné le parc, mais ce dessinateur avait du goût. Il a su conserver les chemins moussus et en même temps donner à son œuvre l'allure moderne qu'aimaient nos grands-parents. Mon grand-père, ainsi qu'il convient quand on fait bâtir, diminua si bien son avoir qu'il dut vivre ensuite avec la plus piteuse tenue de maison. Mon père, fils unique, homme d'initiative, intelligent, actif, sorti dans l'artillerie de l'école polytechnique, abandonna la carrière militaire pour mettre en rapport des terres, établir une raffinerie et relever la fortune de notre famille. Il a semé le bonheur autour de lui. On dit que les ménages vraiment unis sont rares. C'est possible, mais je n'en puis juger d'après mes parents. Leurs qualités sont semblables, avec de fines différences qui sont le liant entre leurs caractères. Quel mérite a-t-on d'être soi-même à peu près bien quand on sort de si bonne souche ? Olga secoue sa jolie tête avec impatience lorsque j'émets devant elle ce genre d'axiome. Elle me répond d'un ton décidé qu'elle veut tenir son mérite d'elle-même et les mois de son jeune orgueil me fait sourire. Dans quelques jours, nous célébrerons ses fiançailles, chère petite Olga. Il y a entre nous l'intimité qui vient de sa confiance en moi, mais 13 années de plus sur ma tête mettent une limite à nos compréhensions mutuelles. Sont-ce bien ces 13 années ? N'est-ce pas plutôt la différence de nos sorts, de notre mentalité, de la sympathie que nous inspirons pour des motifs bien différents ?